Chers auditeurs de la Radio du Cinéma, soyez les bienvenus pour cette nouvelle rencontre avec une personne qui est un peu atypique par rapport aux personnalités qu'on a l'habitude de vous présenter. Je veux parler de Florence Miaille. Bonjour Florence.
Bonjour.
Bienvenue à la Radio du Cinéma. Vous êtes réalisatrice et scénariste, mais vous êtes réalisatrice dans un univers qui est le cinéma d'animation. Et dans ce cinéma, vous avez une spécialité qui, pour le coup, est extrêmement, extrêmement marginale et très personnelle. Vous faites de la peinture animée. Vous allez évidemment nous expliquer tout ça. Avant ça, je vais vous demander de vous présenter et brièvement votre parcours. Vous avez démarré donc à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et puis, vous allez nous raconter.
Alors, effectivement, j'ai commencé avec les arts déco. Ma mère était peintre et je ne me voyais pas en fait faire autre chose que de continuer de dessiner, de continuer à faire gravure, peinture, etc. Et en fait, quand je suis rentrée aux arts déco, j'avais très envie de faire de l'animation. Mais ce n'était pas mes références, ce n'était pas l'animation de Walt Disney à l'époque, hein. Ce n'était pas une animation traditionnelle. Mais c'était au contraire une animation qui venait plutôt des animateurs des pays de l'Est. J'avais pu voir des films ça ne dira peut-être pas grand-chose, mais Yuri Norstein, qui est un grand animateur russe, Jiří Trnka, qui est un animateur tchèque, qui avait fait un film incroyable le despotisme, avec une main qui montre un personnage, qui dirige un personnage, et d'autres films. Voilà, donc je cherchais dans l'animation. Au Canada aussi, il y avait des films de McLaren qui sortaient de ce qui était le film de Disney habituel, quoi. Mais en fait, à ce moment-là, en France, il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'animation qui permettaient cette approche-là des films d'animation. Il y avait les Gobelins, mais qui formaient surtout des techniciens de Disney. Mmh. Et puis, c'était quasiment tout. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers les arts déco. Et aux arts déco, il n'y avait pas non plus vraiment d'endroit où on enseignait l'animation dans cette école. Donc, j'ai fait gravure et peinture. Gravure, surtout. Et puis, je suis sortie des arts déco. J'ai travaillé pour gagner ma vie en faisant des maquettes de journaux.
Maquettiste, oui.
Voilà, maquettiste. Ouais. Je faisais parallèlement de la gravure et surtout de la peinture. 10 ans après être sortie des arts déco, donc ma mère qui était peintre, mais je l'ai déjà dit, m'a fait rencontrer un monsieur qui s'appelait Robert Lapoujade, qui était peintre et qui faisait des films d'animation, aussi bien en peinture animée qu'en marionnette. Il avait essayé de faire un Don Quichotte qui n'avait jamais vu le jour d'ailleurs, tout en marionnette, en volume. Et j'ai rencontré cet homme qui m'a dit « Mais écoute, si tu as envie de faire des films, tu prends une caméra et puis tu fais des films. » Voilà, tu apprends toute seule, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis un peu autodidacte en animation. D'accord. J'ai inventé un peu ma propre méthode en m'inspirant de grands noms de l'animation mondiale, disons. Une réalisatrice canadienne aussi qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Caroline Leaf et qui faisait déjà des films en peinture sur verre, animé en peinture sur verre.
Donc là on est en quelle année, Florence?
Alors, je suis sortie des arts déco en 81, on est en 91.
D'accord, donc vous avez démarré véritablement cet art dans les années 90. D'accord,
oui, d'accord. Le premier film que je sors, je crois que c'est Hammam en 91.
Voilà, c'est les informations que j'ai pu récolter moi aussi. Voilà, donc du coup, ce court-métrage en annonce quand même un certain nombre, puisque vous avez réalisé près d'une dizaine de courts-métrages. Enfin, oui. Je n'ai pas quantifié exactement, on n'est pas loin de ça. Le dernier en date s'appelle Papillon. Mais ce qui est le prétexte de cette rencontre, c'est que vous avez été la première à réaliser un long-métrage de cet art, donc de la peinture animée. Et ça, c'est quelque chose de très très rare. Et vous allez nous raconter, au-delà de la technique, évidemment, le chemin de croix que représente le fait de concrétiser un projet aussi ambitieux, puisqu'évidemment, des films comme cela, dans le cinéma, on en voit très rarement, pour ne pas dire jamais. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un livre qui s'appelle donc « La Traversée », que vous avez co-réalisé avec Marie Desplechin. Pardon. Qu'est-ce qui a fait et cette rencontre avec Madame Desplechin, qui a contribué évidemment directement à la réalisation de ce projet, comment c'est arrivé à vous?
Je pense que le court-métrage, c'est vraiment le bon format pour des films d'animation qui ne sont pas des films industriels, enfin conçus de façon un peu industrielle, parce qu'il n'y a pas d'économie sur le court-métrage. Il n'y a pas de sortie en salle, et c'est plutôt des films qui sortent dans les festivals. De temps en temps, on les regroupe pour faire un programme, mais ils sortent un peu du cinéma habituel, oui, qui est le long-métrage, quoi. Mais en même temps, ça permet une grande liberté de travail, justement, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier dessus. Mmh. Du coup, on a des subventions, on a beaucoup de subventions, surtout en France. On est vraiment gâtés en France parce qu'il y a pas mal d'organismes qui donnent de l'argent.
Vous pensez au CNC, des gens comme ça ?
Le CNC, mais maintenant, il y a aussi les régions et il y a aussi les télés comme Arte ou comme...
On peut le citer, mais on peut aujourd'hui consulter certains de vos courts-métrages
sur la plateforme d'Arte.
Voilà. Oui, et donc, pour les curieux qui voudront connaître en fait un peu mieux votre travail et votre talent, c'est possible de le faire aujourd'hui.
Ils peuvent voir en ce moment Papillon et au premier dimanche d'août.
D'accord.
Et donc, on est chanceux en France pour ça, pour justement avoir cette possibilité de continuer à faire
cet accompagnement.
Pour certains. Et après avoir fait, en fait, de 91 jusqu'à 2006, j'avais fait pas mal de courts-métrages. Et en 2006, j'ai eu envie de faire un long-métrage. Alors, l'envie de faire un long-métrage, c'était pas forcément pour le long lui-même, mais c'est parce que j'avais le sentiment que l'histoire que j'avais envie de raconter ne tiendrait pas dans le format du court-métrage. Que j'avais besoin de plus de temps pour raconter cette histoire. Marie Desplechin, ça fait des années, en fait, qu'on travaille ensemble. D'accord. Sur les courts-métrages.
Peut préciser ce qu'elle fait à vos côtés ?
Alors, elle écrit ce que moi, je ne peux pas écrire.
D'accord. On peut la considérer comme scénariste, pour le coup.
Oui, voilà. Oui, elle est scénariste.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Mais elle est pas... Son métier, c'est pas d'être scénariste. Mm-hmm. Son métier, c'est écrivaine.
Oui.
Et moi, je l'ai rencontrée, elle avait écrit un livre pour enfants.
D'accord.
Moi, j'avais fait, je l'avais fait Hammam, donc mon premier film. Et puis, je cherchais quelqu'un. Enfin, je voulais faire une adaptation de Scheherazade, le conte inaugural des Mille et Une Nuits. Donc, comment Scheherazade en est venue à raconter toutes les histoires pour constituer ce grand roman des Mille et Une Nuits. Et... Moi, je savais comment raconter l'histoire en images et en film, mais par contre, il y a des moments où j'avais besoin de voix pour compléter ce que je ne pouvais pas raconter avec les images. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui écrive cette voix. Et c'était une voix off, en fait. Hein. C'était Scheherazade qui racontait l'histoire de sa grande sœur. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui me fabriquait l'histoire que racontait Dinarzade, la petite sœur, et qui venait se loger dans les creux de l'histoire que moi je racontais en images.
Je m'appelle Dinarzade, la petite Dinarzade, fille cadette du vizir. Aujourd'hui, c'est moi qui raconte l'histoire de ma grande sœur, la sage Scheherazade.
Donc on a eu cet échange entre l'écrit et l'image, de façon à ne pas être, qui a été... donc il y avait des premières écritures de Marie, moi je faisais les dessins, puis on reprenait son écriture, je refaisais... Donc il y avait un aller-retour comme ça entre nous, et on s'est très bien entendu sur ce premier projet. Et puis je pense que tous les films, à un moment ou à un autre, elle est intervenue d'une manière ou d'une autre. Dans mes films, il y a certains films qui n'ont pas d'histoire, mais en général, elle venait me donner un coup de main pour écrire les dossiers, ou bien voilà. Et puis, elle a fait un film qui s'appelait Contes de quartier. Enfin, on a fait un film ensemble qui s'appelait Contes de quartier. Et là, il n'y avait pas de parole, mais par contre, il y avait un scénario, il y avait une histoire qui se déroulait, qui avait besoin d'avoir une structure. Donc, on a travaillé là-dessus aussi. Et c'était évident que pour la traversée, j'allais aussi lui demander de vivre cette aventure-là avec moi.
Bien sûr. La traversée, ça parle de quoi ? Si vous pouvez nous faire un peu le pitch de cette histoire.
Alors, la traversée, c'est en fait c'est une famille qui est obligée de quitter son pays parce qu'il y a des gens qui viennent tout brûler, une espèce de pogrom enfin c'est pas une espèce, un pogrom, disons, parce que c'est très inspiré de l'histoire de ma famille en 1905 qui vivait à Odessa. C'est une famille juive d'Odessa et donc ils sont partis en 1905. Donc le point de départ du film, c'était un peu ça. Enfin, avec Marie, on a très vite décidé qu'il n'y aurait pas de période précise et que si le début pouvait ressembler à ce qui se passait au début du XXe siècle en 1905, la fin était très proche de ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays avec tous ces exilés qui sont obligés de partir de chez eux pour des raisons multiples. Donc voilà, la famille se sépare très vite et on va suivre les deux enfants, donc un frère et une sœur de 13-14 ans, quelque chose comme ça, qui vont essayer de traverser plusieurs pays pour arriver dans un pays où ils espèrent à la fois retrouver leurs parents et aussi avoir une vie meilleure.
Voilà. Il faut partir. On va faire comme les autres. Tous les autres. Prends la carte. J'ai tout noté.
Restez cachés.
Donne tes papiers.
Alors Florence, merci pour ces explications. Quand on a comme ça la trame de l'histoire à raconter, vous partez d'une feuille blanche, c'est-à-dire que vos personnages, vous ne savez pas la tête qu'ils vont avoir, vos personnages, vous ne savez pas le caractère qu'ils vont avoir, l'environnement dans lequel vous allez les faire évoluer, tout ça en fait c'est inventé, ça sort de votre esprit à 100%.
Oui, on va petit à petit avec, à ce moment-là, on est vraiment deux à travailler, hein. C'est de mon esprit puis celui de Marie.
Bien sûr.
Donc on va toutes les deux construire une histoire, inventer les personnages. Avant de commencer à faire le film, on est obligé de faire ce qu'on appelle d'abord un storyboard.
Bien sûr, c'est-à-dire la bande dessinée du film en quelque sorte.
Oui.
Le découpage.
Le découpage, oui, mais le découpage précis, tous les plans. Enfin, dans chaque séquence, on va déterminer le nombre de plans, comment on passe d'un plan à un autre, si c'est un gros plan, un plan large, un plan... On ne peut pas se permettre, comme on fait maintenant, enfin, comme dans le cinéma, on peut jouer la même scène avec la caméra placée à différents endroits et ensuite on choisit éventuellement au montage, qu'est-ce qui sera le mieux approprié. Ouais. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on est obligé de penser à l'avance et d'anticiper. Donc, on a besoin effectivement de plus que jalonner notre chemin, mais vraiment le préciser à chaque étape et de plus en plus. Donc, le premier grand mouvement, pour moi, ça a été d'ailleurs un ruban que j'ai dessiné avec toutes les couleurs du film, en imaginant les petites scénettes et les couleurs qui allaient se succéder dans le film. Ça a été la première étape, une fois qu'on a eu écrit un scénario, à notre façon, à moi et à Marie, ou à Marie et à moi, parce que c'est pas... Et donc, une fois que ce... Et après, petit à petit, on va faire des premiers dessins pour mettre en place dans quel... où sont les personnes... Comment sont les personnages, déjà? Comment ils sont un peu habillés, enfin quelle couleur ils ont, et puis dans quel univers ils vont évoluer, d'essayer de trouver. Et puis on va dessiner. En fait, c'est moi qui dessine la place de la caméra dans le plan. C'est-à-dire que là, je vais choisir effectivement de faire un gros plan, un plan général, de faire un plan avec en changeant mon œil de place, pas la caméra, mais mon œil de place. Donc on dessine tout ça, ce qui nous donne un premier storyboard. Avec ce premier storyboard, on va faire ce qu'on appelle un animatique, qui est un brouillon du film. C'est-à-dire que là, on va faire des voix témoins, demander à des acteurs éventuellement, ou pas forcément des acteurs, même moi je fais pas mal de voix témoins dans le cadre de la préparation du film. On va faire des voix témoins, et puis tous ces dessins qu'on a fait pour le storyboard, on va les monter, on va faire un montage, souvent avec une monteuse d'ailleurs, et on va mettre les voix de façon à être... à avoir les voix, les plans et la totalité du film. Du coup, c'est un espèce de brouillon du film qui peut être en noir et blanc, qui peut être avec des dessins un peu rough, un peu rapidement fait, mais qui nous donne la continuité du film. Parce qu'effectivement, l'animation, c'est très très long, très coûteux du coup pour les producteurs, et on ne peut pas se permettre de faire des plans qui... Bon, quelques plans qui ne seront pas utilisés, mais très peu en fait.
Parce que du coup, dès l'instant où ce brouillon est validé, entre guillemets, Comment ça démarre?
Ça, c'est la pré-production, scénario, storyboard, animatique, avec les voix témoins. Ensuite, on va faire les décors en fonction de cette maquette de film, disons. Et par exemple, pour la traversée, il y avait 600 décors à faire. Donc, j'ai eu une équipe où il y avait 10 décoratrices environ pendant 4-5 mois qui ont fait les 600 décors du film, sur papier.
Ah, sur papier?
Oui, sur papier.
D'accord. Ouais.
Sur papier, mais aussi à la peinture à l'huile pour qu'il y ait une adéquation entre le fond et puis les personnages qu'on allait faire après au-dessus. Donc, il y a ceux qui ont fait les décors, avec comme référence le premier ruban que j'avais fait, puis qui donnait justement cette espèce de charte de couleurs qu'on a précisé un petit peu aussi, mais qui voilà. Et ensuite, il y a deux personnes qui ont fait les premières images, pareil, toujours avec là comme référence mon animatique, ils ont fait la première image de chaque plan, les personnages qui devaient intervenir sur la première image de chaque plan. Avant ça, on a déterminé effectivement tous les personnages. Ils en ont fait des croquis, enfin des dessins. Alors quand on fait des dessins en animation pour les personnages, c'est face, profil, enfin face, trois quarts, et les deux profils, et les profils perdus et de dos, quoi, pour que ça s'appelle un turn, pour qu'ensuite les animateurs puissent travailler en sachant comment est dessiné le personnage sous toutes ses faces, quoi.
Oui, on est obligé finalement de raconter le personnage sous toutes ses coutures pour bien le maîtriser finalement.
Oui.
Quoi.
Alors, tous les films d'animation sont faits comme ça,
d'accord,
jusqu'à cette étape-là, ou presque. Et puis ensuite, par contre, moi je donnais à l'animation. Alors après, c'est là qu'intervient la particularité de l'animation peinte.
Ouais.
Théoriquement, il faudrait effectivement qu'on fasse 24 images pour avoir une seconde de film. Donc 24 étapes. Si on fait 12 dessins qu'on prend deux fois, on a toujours 24 photos, mais on ne fait que 12 dessins. En général, on ne fait que 12 dessins qu'on prend deux fois.
D'accord.
Et l'œil ne va pas, le mouvement ne va pas sembler saccadé parce que l'œil va reconstituer un mouvement régulier.
D'accord.
Voilà, l'œil ne verra pas la saccade.
Ah oui.
On peut faire aussi 8 dessins qu'on prend trois fois, toujours 3 fois 8, 24. Et là, pareil, on peut se permettre de faire 8 dessins qu'on prend 3 fois. Après, ça dépend du type de mouvement, mais on peut se le permettre. Après, si on fait 4 dessins qu'on prend 6 fois, 6 fois 4, 24, ça veut dire qu'on va avoir
saccades. D'accord.
Voilà, mais
donc,
du coup,
la fluidité du mouvement ne sera pas au rendez-vous.
Voilà, exactement.
D'accord.
Mais si on fait 12 dessins, donc ça c'est énorme parce que ça divise le temps de travail en deux quand même.
Ah oui.
Donc quand on sait que pour faire, en général, on fait en moyenne sur la traversée, on faisait 2 secondes
par jour.
2 secondes.
C'est-à-dire que vous avez été plusieurs personnes à travailler sur le projet.
Oui.
Combien vous étiez de personnes, Florence, pour la traversée?
Alors sur mes courts-métrages, souvent j'étais toute seule.
Oui, on rappelle que là, on parle d'un long métrage.
Là, sur le long métrage.
Donc évidemment, c'est un travail colossal.
Oui. Sur le long métrage, on a été 15 animatrices et un animateur. Ce qui était compliqué, c'était qu'on était sur 3 pays différents en plus. Et comment on serait... En fait, c'est moi, je ne pouvais pas animer parce que j'avais trop de travail en tant que réalisatrice. Parce qu'en fait, il faut surveiller toute la cohérence du film.
Ouais.
Il faut être un peu partout à la fois, expliquer les intentions de chaque plan, contrôler que le plan... la première image qu'on fait est bien conforme à l'ensemble et qu'ensuite ça dérive pas pendant qu'on fait l'animation, parce que on y reviendra, mais effectivement c'est là que c'est compliqué parce que c'est de l'animation directe sous caméra. Et donc la répartition, on avait le film est un peu, enfin joue sur comme des chapitres d'un livre en fait. On avait 5-6 chapitres, on traitait chapitre par chapitre, le même groupe de personnes faisait le même chapitre, quoi. Et ensuite, j'essayais de répartir en fonction des talents des animatrices, parce qu'il y en a qui étaient beaucoup plus à l'aise à faire des gros plans, ou les gros plans des jeunes, d'autres des gros plans. Enfin voilà, donc j'essayais de répartir pour que que ce soit toujours les mêmes qui fassent les mêmes personnages. Alors, ce n'était pas toujours possible, parce que des fois, il y a des personnages qui sont ensemble. Il y en avait qui aimaient bien, enfin, qui faisaient très, très bien les visages, et d'autres qui faisaient mieux des petites silhouettes toutes petites, et puis d'autres qui faisaient mieux les personnages plein cadre dans le...
Oui, donc vous répartissiez le travail de cette manière-là.
Voilà, en fonction des compétences des uns et des autres, sur 3 pays différents.
D'accord.
Donc en fait, j'ai tourné une partie, parce que ça, c'était des histoires de coproduction.
Oui.
Avec, quand on coproduit avec un pays étranger, il faut qu'on donne du travail aux gens de ce pays.
C'est du gagnant-gagnant.
Voilà. Donc, il y avait des Allemands.
D'accord.
Un producteur allemand à Leipzig, oui, et à Dresde, et un coproducteur tchèque à Prague.
D'accord.
Donc, il y avait 5 personnes, quand je dis 15, il y avait 5 personnes à Prague qui ont travaillé pendant 18 mois, 2 personnes en Allemagne, à Leipzig, qui ont travaillé pendant 12 mois.
D'accord.
Et puis, on avait une production, une coproduction avec un producteur toulousain, XBO.
D'accord.
Et donc, il y a eu 5 personnes aussi qui ont travaillé à XBO, à Toulouse.
D'accord.
Pendant 9 mois, je crois.
Mais alors, voilà. Du coup, leurs dessins, vous les...
Et les décors qui avaient été faits préalablement à Toulouse aussi, avec 10 personnes pendant 5 mois, comme je le disais.
D'accord.
Le décor, en fait, il est fait de 2 couches.
Oui.
Une couche sur un papier de soie qui est translucide, sur lequel les décoratrices vont mettre de la peinture à l'huile, de façon presque très abstraite, un peu comme des tâches, c'est-à-dire qu'ils vont construire le dessin de façon rapide. Voilà. Et là, pourquoi la peinture à l'huile ? Parce que ça ne fait pas plisser le papier de soie, qui est un papier très très fin. Et pourquoi le papier de soie ? Parce qu'il va y avoir une lumière sous les décors qui va éclairer par-dessous.
Ah, ça va être rétro-éclairé.
C'est rétro-éclairé, absolument. Et sur ce papier de soie qui est fait plus de tâches et de choses à peine assez esquissées, on met un celluloïde. À la peinture à l'huile aussi, on va peindre les détails du décor. Et là aussi, quand les décoratrices le font, on peut corriger, parce que la peinture à l'huile, ça s'efface, ça se reprend. Donc effectivement, ça permet... Parce que quand on fait des décors réels, hein, on n'a pas de pomme Z comme sur l'ordinateur. Donc il faut avoir la possibilité, même si ça va que moi je puisse corriger, qu'on puisse d'intervenir, de corriger les décors si ça ne va pas tout à fait, sans être obligé de tout refaire parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas quelque part dans le décor. Donc il y avait le papier de soie pour donner
la trame, le premier
geste de la peinture, et puis revenir dessus pour donner les détails.
On peut affiner, voilà, les modifier,
et puis par exemple si on fait un arbre, on va rajouter des feuilles, on va rajouter la vibration des feuilles, on le précise.
Et les dessins, du coup, ils vous les envoyaient par Internet ? Comment ça marche ?
J'essayais d'être un peu sur place, donc je tournais entre Leipzig, Toulouse et puis Prague. Mm-hmm. Et c'est ça qui était vraiment très, très, très difficile, en fait, parce que sur ce type de peinture, en fait, c'est bien quand on est... C'est un peu une animation sans filet de travailler directement sous la caméra, parce que dans l'animation traditionnelle, on va tout dessiner à l'avance et ensuite on filme. Ça, c'est l'animation traditionnelle, et maintenant on travaille sur des palettes graphiques. Donc sur des palettes graphiques, effectivement, on peut corriger à l'autre bout du monde si on veut.
On a plus
de souplesse. Moi, c'est un trait de pinceau sur du verre. Donc quand la fille, elle faisait un trait de pinceau qui ne convenait pas, c'est vachement plus facile de le corriger sur place que de lui envoyer des exemples par Internet, etc., pour lui dire, voilà, ton trait, il faudrait qu'il soit comme ci, comme ça.
Donc, pour le coup, ça veut dire qu'en temps réel, pour faire vivre votre personnage, comment ça se passe ? Vous effacez une partie du personnage sur la vie. Vous peignez avec quoi ? Des peintures spéciales
De la peinture à l'huile, parce qu'elle ne s'assèche pas trop vite.
D'accord. Et du coup, vous enlevez ça avec quoi, alors, du coup,
Avec des chiffons, avec des cotons, avec des cotons-tiges.
Mais donc, j'imagine que ça doit être assez chirurgical, c'est précis comme...
Ça dépend... Alors, en fait, non, pas forcément.
D'accord.
Je prends l'exemple d'un bras qui se lève.
Oui.
On a le bras... Si jamais il n'y a que le bras qui se lève,
oui,
on dessine, on peint le bras sur la vitre. On efface que le bras, on le repeint un peu plus haut, on l'efface, on le repeint, on l'efface, on le repeint.
D'accord.
Bon, après, si c'est un personnage qui tourne, parfois il faut effacer tout le personnage et puis à chaque fois le repeindre, mais en même temps, on a l'image précédente sur laquelle on peut, qui est sur l'ordinateur. Et en fait, on peut se baser sur l'image précédente pour construire l'image suivante. Mais la nouvelle génération qui a appris comme ça travaille avec l'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils peuvent même mettre le dessin précédent en transparence.
Voilà.
Mais on ne travaille jamais sur l'ordinateur.
Oui, oui,
on travaille que sur
bien sûr.
On travaille sur la vitre, mais l'ordinateur nous renvoie à la fois ce qu'on est en train de faire et
la transparence de l'image précédente.
Et la transparence de l'image précédente.
D'accord.
Donc on peut reconstruire notre dessin.
Donc ça, c'est la fameuse technique donc, de l'animation directe sous caméra,
voilà.
Qui est vraiment une signature pour vous, en fait, ça, Florence.
C'est-à-dire que très
peu de gens pratiquent cette technique-là.
Non, il y en a, parce qu'en fait, par exemple, c'est vrai qu'on la pratique moins en peinture, mais on peut la pratiquer en papier découpé. Ah. Michel Oslo, qui est très connu maintenant, avec Kirikou,
oui.
Lui, les premiers films qu'il a fait étaient dans cette technique de papier découpé en ombre chinois, justement. Si vous voulez voir ses films... Ses premiers films, c'est vrai, ça, si vous aimez les ombres chinoises, enfin les ombres comme ça, c'est tout à fait ça.
D'accord.
Donc oui, voilà, il y a plusieurs techniques. Et là aussi, c'est directement sous caméra. Parce qu'on manipule un personnage directement sous la caméra.
On le fait évoluer.
On le fait évoluer. À chaque évolution, on prend des images. Mais les films qui sont les plus connus, qui sont faits aussi directement sous caméra, c'est les films qui sont faits en volume. Alors maintenant, on fait ça en
tout. Là, vous parlez de la stop motion.
Oui, mais tout ça, c'est... Mais oui,
mon petit jardin secret.
Ah bon ? Mais la stop motion, c'est tout. C'est tout. Ouais. En fait, la stop motion, c'est pas... Maintenant, on parle de la stop motion pour plus spécifiquement du volume, mais en réalité, toute l'animation, c'est de la stop motion.
On est d'accord. On est d'accord. On va revenir un peu à ce projet La Traversée, parce que La Traversée, c'est à hauteur aussi un peu de symbole par rapport à l'histoire même de la fabrication de votre film. Je ne sais pas si vous acceptez qu'on parle de ça, mais fabriquer un film comme ça, ça coûte cher, j'imagine.
Un film d'animation, ça va entre 3 millions d'euros et 300 millions d'euros si on regarde les Pixar.
Oh oui, non, alors j'imagine que vous concernant, on est plus près de 3 millions d'euros.
On était à 3 millions.
Voilà.
En sachant, j'étais dans la partie...
Fourchette basse.
Voilà. Très, très, très basse.
En sachant que ce que vous me disiez, ce que vous me confiez juste avant qu'on démarre cette interview, c'est que c'est quand même, ça représente quasiment 15 ans de votre vie, ce projet.
Oui.
Pas à temps complet, mais c'est un projet extrêmement long.
Ouais.
Et évidemment, quand on voit le résultat à l'écran, on ne prend pas acte de la constellation de travail qui a été fait pour donner matérialité à un projet pareil.
Oui.
Et ça, c'était aussi une volonté de la radio du cinéma que de faire la lumière sur tout le travail qui est accompli autour de la réalisation d'un film comme le vôtre, parce que ça représente artistiquement beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à un résultat très atypique et très personnel vous concernant, Florence. J'ai envie de vous poser aussi une question un peu plus philosophique. Ce travail, qu'est-ce qu'il dit de vous ?
L'envie de faire de la peinture et peut-être aussi l'envie de ne pas être exactement dans les traces de ma mère, c'est-à-dire de ne pas faire la même chose qu'elle.
Mm-hmm.
Et pour moi, la comparaison entre le travail de ma mère, que je trouve personnellement absolument magnifique, et je crois qu'il l'est, hein, c'est pas parce que je suis...
On parle de Mireille Niaille.
Voilà,
Mireille Niaille, qui
était une peintre. Et ce que ça dit de moi, c'est ça aussi, c'est l'envie d'être... Enfin, ce besoin de peindre, peut-être, qui vient de je ne sais pas où, mais en tout cas, qui pouvait pas être exactement sur la même trace et dans les mêmes pas que ceux de ma mère. Donc c'est... Ce que ça dit de moi de faire ça, c'est ce petit pas de côté qui me permettait de trouver ma propre place.
D'accord, mais c'est une très belle histoire.
Oui, parce que en fait, dans le film, moi, j'ai utilisé les dessins que ma mère faisait quand elle avait entre 16 et 26 ans, qui correspondaient à 36-46, la période de l'avant-guerre et de la guerre.
Mm-hmm.
Et elle dessinait sa famille, elle a fait des autoportraits d'elle, elle dessinait ses parents, ses amis, etc. Et on s'est servi de ça pour refaire les personnages du film La Traversée. Donc en fait, les personnages du film sont des personnages qui étaient dans l'entourage de
qui
de
ont
ma
existé
mère, qui ont existé.
Du reste, il y a un très bel hommage dans le livre, donc aux éditions Delpire, donc il s'appelle, on le rappelle, La Traversée, coécrit par vous-même, Florence Miaille et Marie Desplechin. La première partie, ce sont des dessins de votre maman qui sont absolument superbes.
C'est ceux-là, lesquels qu'elle a fait très jeune, en fait.
Voilà, et donc c'est un très bel hommage rendu à son travail, oui, avant de démarrer sur votre propre travail.
Et en fait, quand on a commencé à écrire l'histoire avec Marie Desplechin, l'histoire de Kiona, donc l'héroïne du film, c'était l'histoire d'une jeune fille qui peint et qui est très douée pour le dessin. Donc c'était vraiment une référence directe à ma mère.
Alors j'ai oublié de préciser, mais parmi les prix que vous avez obtenu quand même un César. Alors il y en a beaucoup, c'est pour ça que je ne les ai pas égrenés, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Mais parmi les prix les plus importants, vous avez obtenu le César du meilleur court-métrage en 2002. C'est quand même à souligner.
Pour Au premier dimanche d'août. Pour,
voilà, exactement. Donc on rappelle le titre, Au premier dimanche d'août.
Et c'est d'autant plus à souligner quand même, je tiens à le dire, c'est oui, qu'à l'époque, il n'y avait pas une différence entre les courts-métrages d'animation et les courts-métrages en prise de vue réelle.
Il y a une petite tradition dans les interviews que je réalise. Je vais vous demander en fait de me donner votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Florence, vous avez trois petites marches devant vous. La scène vous appartient.
Alors, du coup, c'est vraiment les premiers qui me viennent à l'esprit. Donc, c'est des films très connus et des répliques très connues et des musiques très connues. Et parce que c'est vraiment la première chose qui me vient. Parce que sinon, après, je suis trop noyée dans tout ce que j'aime, dans le cinéma, dans l'animation, dans la musique. Donc, Les Enfants du Paradis, que j'ai dû voir quand j'étais petite.
Ça, c'est votre film préféré de Marcel Carné, donc?
Oui, de Marcel Carné, parce que d'abord, je l'ai vu énormément de fois. Je l'ai vu quand j'étais petite, j'ai montré à mes enfants l'ont adoré. Et je peux le revoir autant de fois que je veux, en le découvrant à chaque fois. J'ai autant de plaisir à le voir.
Comme vous êtes belle.
Je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout.
Vous êtes la plus vivante.
Alors, on poursuit avec votre meilleure musique, s'il vous plaît, Florence.
Alors, pareil, là aussi, ça va être très, très classique. C'est la musique de Nino Rota, toutes les musiques de Nino Rota qu'il a fait pour Fellini, que j'aurais pu citer aussi dans les meilleurs films. Mais voilà, La Strada.
Oui, là, qui est une référence, évidemment, dans le répertoire de Nino Rota pour les films de Fellini. Et puis, pour terminer, je vais vous demander votre meilleure réplique.
Alors, la première qui m'est venue à l'esprit, parce que comme je l'ai dit, c'est le seul film que je connaisse absolument par cœur, c'est aussi dans Les Enfants du Paradis. Paris est si petit, pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Sait-on jamais avec le hasard?
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit, pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Action!
Alors, si on dit musique de film, interview, où on trouve ça? La radio du cinéma.